3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinéparc. L'Afrique est un continent considéré comme le berceau de l'humanité. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie et représente environ 17 % de la population mondiale. Ce continent est traversé presque en son milieu par l'équateur et présente plusieurs climats, soit chaud et humide au plus près de l'équateur, tropical dans les régions comprises entre l'équateur et les tropiques, chaud et aride autour des tropiques, et tempéré dans les zones d'altitude. Ce continent est également caractérisé par le manque de précipitations régulières. L'Afrique abrite également le second massif forestier continu de la planète, soit la forêt du bassin du Congo. Économiquement, ce continent est le principal fournisseur d'or de l'Occident et de l'Orient. Ce sera également ce continent qui sera associé à l'embarcation connue sous le nom de The African Queen. Ce bateau à vapeur de 30 pieds de long sera construit en tôle de fer rivetée en 1912 au Royaume-Uni pour le service militaire œuvrant en Afrique sur le Nil Victoria. Initialement nommé S.L. Livingstone, il fut immédiatement envoyé à la compagnie British East Africa Railways sur le Nil Victoria et le lac Albert, situé à la frontière du Congo belge et de l'Ouganda. Le bateau avait été construit pour naviguer sur cette rivière et a été utilisé pour transporter des mercenaires, des missionnaires, des cargaisons et des individus qui organisaient des parties de chasse. Ce sera en 1951 que le metteur en scène John Huston verra le navire pour la première fois et décidera de l'utiliser pour son tout nouveau film « The African Queen ». Le navire conservera ce nom après la fin du tournage et, en 1968, sera acheté par un propriétaire de restaurant de San Francisco et amené aux États-Unis pour une opération d'effrétement. En 1970, un homme appelé Hal Bailey a acheté le bateau pour le prix de sa facture pour la construction d'un chantier naval et l'a amené en Oregon pour une opération d'affrètement. Cette opération fut un tel succès qu'il a décidé de ramener l'embarcation avec lui en Floride. En 1982, un fan de Humphrey Bogart, James Hendricks Sr., découvrira le navire languissant dans un pâturage de vaches à Ocala, en Floride, et achètera le morceau d'histoire pour seulement 65 000 $. Hendricks remettra alors le bateau en fonction et commencera à offrir des promenades aux visiteurs, et ce, dès 1983, alors que le navire était au domicile du Holiday Inn de Key Largo. En 2012, le capitaine Holmquist et sa femme signeront un bail à long terme avec le fils de Jim Hendricks pour restaurer le navire à temps pour les célébrations de son centenaire. Une fois terminé, le navire sera alors remis en service afin de poursuivre ses croisières sur les canaux de Key Largo. Ce sera ce continent ainsi que le bateau The African Queen qui seront les points centraux de notre programme double d'aujourd'hui alors que je vous parlerai du film français L'Africain ainsi que de ce classique de l'histoire du cinéma The African Queen. Deux films qui se passent en Afrique et dont le navire portera le même nom, soit le African Queen. Donc, préparez-vous à accueillir votre ex ou future épouse à bord d'un bateau à vapeur et ainsi partir vivre des aventures rocambolesques sur un continent où la mort vous attend à tous les tournants dans ce programme double bourré d'action et d'humour cocasse.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
And now, on with the show.
Ouais, tu me chatouilles.
Ouais, qu'est-ce que tu chatouilles?
Je chatouille derrière.
Je te tripote, moi? Moi, qu'est-ce que...
Ça devient oppressant.
Écoute, tiens.
L'Africain est un drame d'aventure qui a été distribué par le studio Rennes Productions le 1er mars 1983. Ce long métrage français est d'une durée de 101 minutes, Malheureusement, il m'a été impossible de trouver le budget du film, ni même son box-office. Au niveau de la réalisation, eh bien, c'est le réalisateur français Philippe de Broca, lui qui a réalisé le film Le Magnifique, L'Homme de Rio et La Gitane, qui se trouve sur la chaise du réalisateur. Le producteur sera nul autre que Claude Berry, ce producteur français qui avait produit les films Valmont et Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et finalement, Gérard Braque, ce scénariste français qui avait écrit les scénarios de L'Ours, Frantic, Jean de Florette et Manon Dessources, ainsi que Philippe de Broca, ce scénariste français qui avait écrit le scénario de Chouan, La Clé du Paradis et Le Farceur, s'associeront pour écrire ici le scénario du film. Dans la distribution, on y retrouve Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Jean-François Balmé, Jacques François, Joseph Momo, Viviane Reed et Jean Bangouigoui. Fuyant la civilisation, un amoureux de la nature s'est installé une épicerie dans une réserve d'animaux en Afrique. Mais lorsque sa femme, employée au club Méditerranée, surgit à la recherche d'un site pour rétablir un hôtel de vacances, cela force le couple en instance de divorce à jumeler leurs forces lorsqu'ils se retrouvent confrontés à un trafiquant d'ivoire. Né à Paris le 1er juillet 1934, le producteur Claude Berry débutera sa carrière comme comédien au théâtre où il se liera d'amitié avec la comédienne Katharina Renn, qui inspirera le nom de sa future société de production cinématographique, Renn Productions, qui sera alors créée le 16 avril 1963. La naissance de Renn Productions lui permettra de tourner le court-métrage de fiction « Le Poulet », qui lui vaudra l'Oscar du meilleur court-métrage en prise de vue réelle en 1966. Partageant alors sa carrière entre acteur, réalisateur et producteur, Berry verra son nom associé avec les films les plus importants à être réalisés en territoire français et se verra même produire une œuvre du réalisateur Roman Polanski intitulée « Tess » et qui mettait en vedette l'actrice allemande Nastasia Kinski. Au début des années 1980, le producteur désirait ardument travailler avec le réalisateur français Philippe de Broca. De Broca, qui était né le 15 mars 1933 à Paris, était le fils d'un industriel du cinéma et le petit-fils d'un peintre de renom. Il fera ses études à l'École technique de photographie et de cinématographie École Vaugirard à Paris, où il obtiendra son diplôme en 1953. L'année 1960 marquera la sortie de son tout premier film en salle, mais il lui faudra attendre en 1962 avant d'obtenir son tout premier succès commercial avec le film Cartouche, qui mettra alors en vedette l'acteur Jean-Paul Belmondo, avec qui il tournera plusieurs films durant les années 1970. Au début des années 1980, Berry approchera de Broca et lui proposera un projet de film se déroulant durant la Révolution française et qui s'intitulait « Bleu, blanc, rouge ». Mais le scénario de De Broca, coécrit avec le scénariste Daniel Boulanger, ne convaincra pas le producteur qui lui suggère alors une histoire d'aventure amusante qui se situait quelque part en Afrique. De Broca aimera l'idée, étant amoureux de ce continent où il filma quelques documentaires après son service militaire. Il se met aussitôt à l'écriture d'un scénario avec l'assistance du scénariste Gérard Braque. Braque ayant précédemment travaillé à l'écriture des films Le Bal des vampires, Test et Le locataire du réalisateur Roman Polanski. Malheureusement, l'entente entre les deux hommes ne fut pas facile et De Broca décide alors de quitter un mois pour le Zaïre afin de faire un repère des lieux de tournage. À son retour, il reprend tout à zéro en se faisant aider par le réalisateur-scénariste Claude Sautet, qui ne sera pas crédité au générique. Très attaché à la nature et membre du conseil d'administration de la WWF de Paris, De Broca portera une insistance sur le message écologique à travers sa prochaine œuvre. De plus, le réalisateur était un amateur du film The African Queen du réalisateur John Huston et s'assura de faire un clin d'œil à cette œuvre magistrale de 1951, le bateau de son héros portant le nom du African Queen numéro 2. Claude Berry mettra tous les moyens nécessaires sur cette production qui réunira de nouveau le couple d'acteurs français Philippe Noiret et Catherine Deneuve à l'écran. Ces derniers ayant joué le rôle d'un couple 17 ans plus tôt dans La vie de château du réalisateur Jean-Paul Rappeneau. Cependant, à l'origine, ce fut l'acteur Jean-Paul Belmondo qui était le tout premier choix du cinéaste pour incarner son personnage de Victor, mais Belmondo refusera, ne se sentant pas prêt pour investir dans cette aventure, l'acteur étant plus avide des comédies d'action viriles. De Broca se tournera donc logiquement vers Noiret, avec qui il avait travaillé sur les films Tendre Poulet et On a volé la cuisse de Jupiter. Jean-François Balmer complétera la distribution et le tournage débutera le 23 août 1982 au Zaïre ainsi qu'au Kenya avant de retourner en France pour terminer les dernières séquences avant la fin du tournage le 14 décembre de cette même année. Ce sera sous le titre « Sur la piste des éléphants » que sera fait le tournage dont l'ambiance sera des plus conviviales. À cause de la complexité de la production, De Broca obtiendra l'aide de l'assistant réalisateur Frédéric Blum pour la mise en scène de certaines séquences de son long métrage. Ce sera le directeur de la photographie, Jean Penzer, qui sera embauché pour s'occuper du visuel. Penzer avait participé au tournage du tout premier long métrage de De Broca en 1960. Il utilisera donc sa vaste expérience afin d'aller chercher des images remarquables sur le continent africain, donnant au film des allures de documentaire à certains moments. Les conditions climatiques africaines furent cependant extrêmement difficiles pour tous les membres de l'équipe, tant en avant qu'en arrière de la caméra. Catherine Deneuve se montra magnifique, toujours élégante et de bonne humeur, et ce, malgré la chaleur, cette dernière remontant continuellement le moral de chacun. D'ailleurs, l'actrice française sera la seule à résister aux moustiques, Philippe Noiret prétendant qu'elle était une fille en béton. Deneuve gardera d'excellents souvenirs du tournage qu'elle trouva amusant, passionnant, mais difficile, dans un pays où le moindre déplacement posera des problèmes de logistique, trouvant remarquable le fait qu'il n'y ait eu aucune entorse ou maladie grave tout au long de cette production. Le soir, l'équipe se réunissait pour jouer aux cartes et ce sera durant cette occasion que Catherine Deneuve initiera Philippe Noiret aux règles du tarot. À la fin du tournage en Afrique, les Pygmées réserveront une surprise à toute l'équipe du film en réalisant une fête où ils se maquilleront avec du jus de plante et danseront tout en jouant de la musique et en donnant des cadeaux aux techniciens et aux acteurs du film, Deneuve recevant un magnifique collier réalisé par ceux-ci. Une fois de retour en France, ce sera le monteur Henri Lanoy qui s'occupera de finaliser le film. Lanoy n'était pas seulement connu pour ses talents de monteur, mais également pour sa diversité, l'homme ayant également occupé le poste de compositeur musical, scénariste, acteur et réalisateur. De Broca et lui étaient habitués de travailler ensemble, les deux hommes ayant travaillé ensemble à plus de 6 reprises, l'Africain étant leur 7e projet. Ce sera le compositeur Georges Delerue qui s'occupera de la création et de la réalisation de la musique du long-métrage. Delerue était un musicien reconnu à travers le monde entier qui avait travaillé sur presque tous les films de De Broca, et ce, depuis son tout premier long-métrage, « Les feux de l'amour » en 1960. Pour l'Africain, il obtiendra l'aide du compositeur américain George Gershwin, le compositeur travaillant déjà sur 6 autres productions, dont « Vivement dimanche » de François Truffaut, « L'été meurtrier » de Jean Becker, « The Black Stallion Returns » de Robert Dalva, ainsi que « Something Wicked This Way Come », »,« Silkwood » et « Man, Woman and Child ». L'Africain sortira en salle en mars 1983 et obtiendra un grand succès, ayant plus de 457 305 entrées en 11 semaines de diffusion, et ce, dans seulement 44 salles parisiennes. Il s'agira ici du seul projet cinématographique dans lequel le producteur Claude Berry et le réalisateur Philippe De Broca travailleront ensemble durant leur carrière. En 2002, la compagnie de production de Berry, Rennes Productions, fusionnera avec l'entreprise française Pathé et deviendra Pathé Rennes Productions avant de prendre le nom de Pathé Film en 2007. Dans la nuit du dimanche 11 janvier 2009, Berry est admis en réanimation au service des urgences de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Souffrant d'un hématome intracrânien, il mourra dans la matinée du 12 janvier des suites d'un accident vasculaire cérébral. Pour le cinéaste français Philippe De Broca, ce dernier décédera le vendredi 26 novembre 2004 à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer à Neuilly-sur-Seine. L'acteur Philippe Noiret, quant à lui, perdra la vie dans l'après-midi du 23 novembre 2006 à son domicile parisien à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer généralisé. Finalement, le compositeur de musique de film Georges Delerue décédera le 20 mars 1992 à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque 8 jours après son 67e anniversaire. Celui-ci venait tout juste de terminer l'enregistrement de la musique du film Rich in Love. Auteur de plus de 300 musiques de films, Delerue recevra à 3 reprises le César de la meilleure musique, soit en 1979, en 1980, ainsi qu'en 1981, ainsi que l'Oscar de la meilleure partition originale, décerné en 1980 pour I Love You, Je t'aime. Du côté des points forts, eh bien, l'Africain tire parti de la chimie incroyable entre ses deux comédiens principaux, soit Philippe Noiret et Catherine Deneuve. Philippe de Broca réalise ici un excellent film d'aventure humoristique français, sans prétention, dont la photographie est tout simplement magnifique. Le film possède un excellent rythme, avec une histoire simple qui se laisse suivre sans aucun ennui, Noiret étant d'un humour crasse, alors que Deneuve saura encore une fois charmer l'auditoire. Mais ce qui est plaisant ici, c'est que ce film français possède des caractéristiques qui en font une œuvre pour le marché international, tout en gardant une toute petite touche française sans être pour autant désagréable à l'écoute. Finalement, le compositeur Georges Delerue nous donne encore une fois ici une partition musicale des plus sublimes. Mais du côté des points faibles, eh bien malheureusement, les dialogues font par moments trop théâtral, ce qui brise un peu le rythme et la crédibilité de certains moments dans le film. On aurait pu avoir ici beaucoup plus d'action, mais c'est un film français des années 80, donc l'on se contente plus d'amuser le public en poussant l'action en second plan. La conclusion est quelque peu trop facile, mais permettant tout de même une conclusion qui saura satisfaire en général le spectateur. Du côté de la musique, eh bien, comme je disais plus tôt, c'est le compositeur français Georges Delerue qui a réalisé ici la trame sonore du film, lui qui avait composé la musique de True Confessions, Platoon, Twins, Black Rope et Joe versus The Volcano. Je vous fais écouter ici le thème du film L'Africain.
Thank you. Class, come to order. Pay attention just once. We have a lesson to teach to the dunce. Is the candy good conviction?
Now don't they see it perfection?
Have we got a good selection?
We invite your close inspection.
Is the ice cream not delicious? Helpful, tasty, or nutritious? Is the popcorn crisp and helpful?
Yeah, it is sure a mouthful.
Is the soda cold and fizzy?
Vitamins keep the bubbles busy.
That's good, the lesson is learned. The trip to the sweet bar you have earned. Now is time for intermission.
Treat yourself to some nutrition.
You enjoy the movies, like to know what the stars do on and off the set. It's good to know what's new. Then read all about it in the ABC Film Review. Collect those colored pin-ups of the guys and gals who send you Hollywood gossip. Gets here right on cue. So read all about it in the ABC Film Review. The latest that they write about, collectors call and they sell about. So many things to find out about. It's over to you in Film Review. Read all about the big time, what the big time stars all do. Every month just buy that ABC Film Review. Every month just buy Film Review.
There are models and models. Cars, of course. But the used car for you should be a model of reliability. Buy a used car you can depend on.
Fashion. Dresses, suits, and coats in latest fashion for you, for you.
You've seen the show. It was quite a treat. But now you'd like something to eat, so right this way to the concession stand serving Castleberry's, the best in the land. Yes, sir. Castleberry's is real southern barbecue. Choice cuts of meat slowly cooked over open pits of smoldering oak coals for honest-to-goodness barbecue flavor. You'll also find hot coffee, cold soft drinks, and delicious ice cream in our snack bar to go with your Castleberry sandwich. Just look at that generous helping of rich, juicy barbecue. Yum, yum.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
The coming attraction.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
Of world-renowned author C.S. Forrester's story, and filmed in the jungles and at the headwaters of Africa, the Dark Continent, in all the magnificence of color by Technicolor, comes the most exciting adventure ever screened.
You promise. Go down the river.
There's death a dozen times over down the river.
You promised.
Well, I'm taking my promise back.
Filmed in the treacherous wilds of Africa and directed by John Huston, winner of a double Oscar award for The Treasure of Sierra Madre, against a savagely thrilling background, two people live a reckless adventure. Charlie Almond, lazy Jim Swilling, no better than he should be. And Rosie, straight-laced Rosie Sayers, who learns about life, all about it.
Well, I ain't sorry no more, you crazy, psalm-singing, skinny old maid.
two people thrown together against their wills.
Get out.
In a stirring and pulse-pounding story known in fact or fiction.
Waiting for the supper, miss.
I'm the captain, that's who. And I ain't taking you along. You'd only be in my way.
I suppose I was in your way going down the rapids. Then what you said to me back there on the river was a lie about how you never could have done it alone and how you'd lost your heart and everything. You liar. I never dreamed that any experience could be so stimulating.
The African Queen, ou La Reine africaine, est un drame d'aventure qui a été distribué en salle par les studios United Artists le 26 décembre 1951. Ce film américano-britannique d'une durée de 105 minutes a coûté 1 million de dollars à produire et amassera plus de 10,7 millions de dollars au box-office. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain John Huston, lui qui avait réalisé les films Moby Dick, The Maltese Falcon et Pretty's Honor. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur polonais Sam Spiegel, lui qui avait produit les films The Chase, The Last Tycoon et On the Waterfront, qui travaille ici aux côtés du producteur britannique John Wolfe, qui lui a produit les films Oliver et The Day of the Jackal. Au niveau de la scénarisation, eh bien, on y retrouve quatre scénaristes. Tout d'abord, il y a le scénariste américain John Huston, lui qui a écrit le scénario de The Storm, High Sierra, Key Largo et Jezebel. Il est assisté par le scénariste américain James Agee, lui qui a écrit le scénario du film The Night of the Hunter. Peter Viertel, ce scénariste allemand qui a travaillé sur les scénarios de Saboteur, The Village et White Hunter Blackheart. Et finalement, John Collier, ce scénariste britannique qui a travaillé sur les films The Warlord, I Am a Camera et Deception. Au niveau de la distribution, eh bien, on y retrouve Humphrey Bogart, Catherine Hepburn, Robert Morley, Peter Bull, Theodore Bickel, Walter Gottel, Peter Swamwick et Richard Marner. Au début de la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes envahissent un village du Congo et en chassent les habitants. Le pasteur protestant meurt sous le choc, laissant seule sa jeune sœur. Cette dernière est alors recueillie par un aventurier à bord de son petit rafio, The African Queen. À leur risque et péril, le couple décide alors de descendre le fleuve afin de faire sauter une canonnière allemande. The African Queen est un roman écrit par l'auteur Cecil Lewis Troughton Smith au début des années 1930 et publié par la maison d'édition Little Brown and Company en 1935. Né au Caire en 1899, l'auteur fera ses études en Angleterre où il commencera à étudier la médecine, mais les abandonnera sans obtenir de diplôme. Après avoir échoué à son examen physique pour l'armée, il commencera à écrire sérieusement en utilisant un pseudonyme vers 1921. Ce sera durant la Deuxième Guerre mondiale que l'auteur déménagera aux États-Unis et fera la rencontre en 1942 de l'auteur Roald Dahl, qui l'encouragera alors à écrire sur ses expériences dans la RAF. The African Queen deviendra par la suite sa 13e nouvelle à être publiée. Il faudra attendre au milieu des années 1940 avant de voir la maison de production Columbia Pictures acheter les droits cinématographiques du roman comme véhicule pour l'actrice Elsa Lanchester et l'acteur Charles Lofton. Mais, en 1946, la Warner Brothers rachètera ses droits, mentionnant alors les noms des actrices Ida Lupino et Olivia de Havilland comme stars possibles de la production avant d'arrêter leur choix sur Betty Davis et David Niven. John Collier écrira alors le scénario pour Warner Bros., étroitement basé sur le livre. Puis, il rachètera les droits du livre et du scénario à la maison de production, prévoyant de produire lui-même le film. Cependant, il revendra peu de temps après ses droits à Horizon Enterprises, qui appartenait en copropriété au réalisateur-producteur John Huston et au producteur Sam Spiegel. Spiegel réussira alors à convaincre le réalisateur John Huston de mettre en scène le long métrage, ce dernier venant tout juste de terminer le tournage de The Treasure of the Sierra Madre au Mexique avec l'acteur Humphrey Bogart. Après avoir convaincu le réalisateur, Spiegel contactera Bogart, qui fut très heureux d'accepter le rôle, ce dernier ayant percé au cinéma 10 ans plus tôt avec The Maltese Falcon, également réalisé par John Huston. Ce sera alors Bogart qui suggérera d'inviter Katharine Hepburn pour le rôle féminin, l'acteur n'ayant jamais travaillé avec elle et estimant que cela pourrait être une combinaison intéressante. Hepburn, qui venait tout juste de perdre sa mère, décédée en mars 1951 des suites d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 73 ans, acceptera de jouer dans le film à une seule condition, que celui-ci soit tourné dans le décor naturel de l'Afrique équatoriale, ce qu'acceptera sans grande difficulté le producteur qui avait déjà l'intention de produire son film là-bas. Une fois ces deux acteurs principaux signés, Spiegel signera une entente pour financer son projet avec la compagnie de production britannique Romulus Film, compagnie qui appartenait alors aux frères John et James Wolfe. Lorsque les frères Wolfe chercheront à obtenir un emprunt à la National Film Finance Corporation, connue également sous le nom de NFFC, pour financer la production, l'un des conseillers de cette organisation, Michael Balkan, suggérera fortement à la NFFC de refuser le prêt aux Wolves, à moins que le film ne mette en vedette ses anciens acteurs d'Ealing Studios, soit John McCollum et Googie Withers, plutôt que Humphrey Bogart et Katharine Hepburn. Les Wolves persuaderont alors le président du NFFC, Lord Reith, de ne pas écouter Balkan et de leur fournir l'argent dont ils avaient besoin pour produire ce projet, ce qu'acceptera alors de faire Lord Reith. Alors que John Huston et James Agee travaillaient sur le scénario, Agee subira une grave crise cardiaque et l'écrivain non crédité Peter Viertel prendra alors sa place afin d'écrire les dernières scènes du film avec Huston. Le scénario sera par la suite de nouveau réécrit, les censeurs de la maison de production s'opposant à plusieurs aspects du script original, ce qui amènera à certains changements, dont la transformation des origines du personnage de Bogart, qui deviendra alors canadien, le personnage étant à l'origine britannique. Bien que le scénario ait été écrit avec peu d'humour à l'esprit, la chimie entre Bogart et Hepburn était si évidente que le réalisateur John Huston conseillera à ses vedettes d'improviser des plaisanteries pleines d'esprit durant le tournage. Pour leurs rôles respectifs, Humphrey Bogart ira chercher un salaire de 125 000 $ plus 30 % des profits nets du film, alors que Hepburn obtiendra un salaire de 65 000 $ et seulement 10 % des profits nets. Le tournage débutera en mai 1951 et durera jusqu'en août de cette même année, passant de l'Afrique à l'Angleterre, puis aux États-Unis. À l'origine, le tournage devait se faire au Kenya, mais le réalisateur John Huston décidera finalement de tourner au Congo à la place. La raison de cette décision était due au fait que Huston était déterminé à chasser un éléphant, mais à l'époque, seuls 5 permis de chasse à l'éléphant n'étaient disponibles par an, et la liste d'attente était de plus de 5 ans. Cependant, lorsqu'il obtiendra son autorisation de tourner au Congo, ce dernier obtiendra alors une autorisation spéciale comme permis de chasse. Le réalisateur demandera donc la construction d'un camp pour loger ses acteurs et tous les membres de son équipe de production à Biondo, à l'extérieur de la ville de Stanleyville. Ce camp comprenait un bar, un restaurant et plusieurs bungalows d'une pièce. Lorsqu'arrivera le premier jour de tournage, celui-ci nécessitera 5 voitures et camions pour amener acteurs, membres de l'équipe de production et équipement, à plus de 3 000 ennemis de Biondo à la rivière Ruiki, où tous se retrouveront sur des bateaux, naviguant pendant plus de 2 milles et demi jusqu'au lieu de tournage. Huston embauchera des indigènes locaux pour aider à l'équipe au transport des équipements, mais beaucoup ne se présenteront pas de peur que les cinéastes soient en réalité des cannibales. En Afrique, le déplacement d'équipements et de fournitures cinématographiques lourds était une tâche difficile et délicate, les routes de la région n'étant au mieux que des chemins étroits découpé à travers la jungle très dense. L'actrice Lauren Bacall, qui était mariée à cette époque avec l'acteur Humphrey Bogart, accompagnera l'équipe de tournage durant toute la production à titre d'invitée. Cette dernière assurera rapidement les rôles d'infirmière et de cuisinière pour tout le monde sur la production. Bacall sera particulièrement occupé sur le tournage car tous les membres de l'équipe tomberont à un moment ou à un autre malades à cause de dysenterie, de paludisme, de maladies liées à l'eau potable contaminée ou de piqûres de toutes sortes d'insectes. Elle sauvera même la vie d'un membre de l'équipe qui développera une appendicite. Ce sera grâce à ce tournage qu'elle développera une amitié de longue date avec l'actrice Catherine Hepburn. Huston avait vu, en arrivant au Congo, un petit bateau nommé S.L. Livingstone, bateau qui fut construit en 1912 en Angleterre. Le réalisateur décidera d'utiliser ce navire comme vedette de son film, qu'il rebaptisera alors « The African Queen », nom qu'il conservera par la suite, même après la fin du tournage. Mais le navire était beaucoup trop petit pour contenir tout l'équipage et les équipements techniques nécessaires, et il fut décidé de construire un autre bateau pour remorquer le Queen avec un générateur, des lumières ainsi que des plateformes réflectrices. Un autre radeau fut également utilisé sur lequel se trouvait tout l'équipement photographique lourd ainsi que l'équipe de production. Pour fermer le convoi naval était un autre radeau sur lequel se trouvait la tente de toilette privée de Catherine Hepburn, comme stipulé dans son contrat. Cependant, après quelques jours de voyagement, Hepburn laissera tomber la petite embarcation. Durant la production, des sections du African Queen pouvaient être retirées pour faire place à la grande caméra Technicolor. Cela s'avérera dangereux durant une occasion lorsque la chaudière du bateau, une lourde réplique en cuir, tombera tout près de Hepburn car cette dernière n'était pas fixée au pont afin de pouvoir être déplacée à tout moment. De plus, comme le Queen était trop petit pour filmer, des répliques de chaque extrémité du bateau seront alors créées et placées sur les radeaux. Le Queen coulera à deux reprises pendant la production du film. De plus, l'utilisation de grands radeaux n'empêchera pas de voir des membres de l'équipe de production et leur équipement être parfois emportés dans la rivière à cause de branches basses de la jungle située sur la rive. En dehors des heures de tournage, l'équipe demeurait dans un camp taillé dans la jungle où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Les gens devaient faire leurs besoins naturels dans la nature, entourés d'une faune mortelle, notamment des serpents et des crocodiles. Pour le lavage, ceux-ci le faisaient avec l'eau rouge de la rivière, utilisant alors un seau avec une ficelle pour prendre une douche. Même qu'à un certain moment, le plateau de tournage fut envahi par deux vastes colonies de fourmis, forçant l'équipe à quitter les lieux rapidement. En plus des conditions physiques défavorables, l'équipage dut faire face à des problèmes techniques redoutables. En effet, cette dernière tournait en Technicolor, ce qui nécessitait de très grandes caméras ainsi qu'une utilisation d'éclairage électrique au-dessus de ce qui était normalement nécessaire. De plus, il s'agissait ici du tout premier film en couleur du réalisateur John Huston. Finalement, un village entier devrait être construit puis incendié par la suite pour le tournage de la scène durant laquelle la mission de Samuel est brûlée par les Allemands. Alors que Hepburn était en admiration continuelle avec l'emplacement, tel ne sera pas le cas pour Bogart, qui détestera grandement son séjour en Afrique. Bogart se plaindra de la chaleur étouffante, des conditions de travail et surtout de la nourriture. Mais le moment le plus difficile pour lui sera celui du tournage de la séquence avec les sangsues. En effet, l'acteur avait insisté pour l'utilisation des sangsues en caoutchouc, mais Huston avait d'autres idées en tête, ayant amené avec lui un éleveur de véritables sangsues de Londres, avec en sa compagnie un réservoir rempli de ces créatures. Cela rendra Bogart mal à l'aise et nerveux. Finalement, ce sera des sangsues en caoutchouc qui seront placées sur l'acteur, alors qu'un gros plan d'une vraie sangsue fut filmé à partir de la poitrine de l'éleveur. Durant les journées off du tournage, John Huston continuait ses parties de chasse à l'éléphant. Un jour, il convaincra Hepburn de l'accompagner et la conduira par inadvertance au milieu d'un troupeau d'éléphants sauvages qui prirent alors panique et fonceront sur Huston et Hepburn. après avoir échappé de justesse à la mort. Cet incident forcera Huston à prendre la décision de ne plus jamais amener personne avec lui de peur qu'il arrive un événement horrible dont il se sentirait alors responsable. Au final, Huston ne réussira jamais à abattre son éléphant et ses expériences seront, par la suite, racontées par l'auteur Peter Viertel, qui écrira le roman « White Hunter, Blackheart », dans lequel Huston sera dépeint comme un ivrogne complaisant qui était plus intéressé par la chasse à l'éléphant qu'au tournage de son film. Ce sera Clint Eastwood qui réalisera l'adaptation cinématographique du roman en 1990. Après avoir enduré des crocodiles, des sangliers et des éléphants, Hepburn tombera finalement malade de la dysenterie et ce, avec seulement 2 semaines de tournage à faire. En effet, Hepburn était fâché contre Huston et Bogart, passant son temps à réprimander les deux hommes pour leur interminable blague à ses dépens. Afin de montrer son dégoût face à la quantité d'alcool consommée par les deux hommes durant le tournage, Hepburn ne boira que de l'eau, ce qui amènera à sa maladie. Pendant certaines scènes, un seau était gardé hors du champ de vision de la caméra afin que l'actrice puisse vomir entre les prises. Au final, alors que tout le monde dans l'équipe de tournage fut malade à un moment ou à un autre, Bogart et Huston, eux, n'eurent aucun problème de santé, les deux hommes ne mangeant que des fèves au lard et des asperges en conserve et ne buvant que du whisky écossais et du scotch, à un point tel qu'aucun insecte ou maladie ne pouvait survivre dans leur entourage. Hepburn, quant à elle, perdra plus de 20 livres pendant la production. Malgré tous ces problèmes, Huston réussira à garder son plateau de tournage calme et agréable. Cependant, et ce avec seulement 2 jours de tournage à faire en Afrique, une quasi-mutinerie surviendra lorsque Huston annoncera qu'il aurait besoin de 3 jours supplémentaires pour filmer. Furieux, les membres de l'équipe de production accepteront de rester plus longtemps, mais décideront de ne garder que le strict minimum. Seule la caméra, quelques membres de l'équipe de production, les 2 acteurs principaux et le réalisateur resteront finalement jusqu'à la toute fin. Ce sera durant sa présence en Afrique que la fille de Huston, Angelica, viendra au monde à Los Angeles le 8 juillet 1951. Une fois le tournage en Afrique terminé, Huston retournera en Angleterre afin de terminer la seconde moitié de son long métrage. Les scènes dans lesquelles Bogart et Hepburn sont vus dans l'eau ont toutes été tournées dans des cuves à Wharton Hall Studios à Halesworth, près de Londres. Ces scènes étant considérées comme trop dangereuses pour être tournées en Afrique. La plupart des scènes contenant des personnages secondaires seront également tournées à Londres. Puis, le film ira en post-production alors que le compositeur autrichien Alan Gray s'occupera de la musique du film. The African Queen sortira en avant-première le 26 décembre 1951 au Fox Wilshire Theatre de Beverly Hills, juste à temps pour se qualifier pour la 24e cérémonie des Oscars. Après une courte sortie en salle, le film sera de nouveau distribué en salle, cette fois-ci à travers l'Amérique du Nord, le 20 février 1952. Le long-métrage, qui sera majoritairement bien accueilli par la critique, récoltera plus de 4 millions de dollars au box-office nord-américain et plus de 6 millions de dollars additionnels au niveau international, mais les problèmes ne s'arrêteront pas là pour le long-métrage. En effet, le syndicat du film de Berlin demandera que The African Queen soit retiré du Festival du film de Berlin en raison de ses tendances anti-allemandes. De plus, peu de temps après la fin du tournage, le magazine belge Ciné-Revue publiera un article prétendument écrit par l'actrice Lorraine Bacall qui comprenait des photographies du tournage en Afrique du film. Romulus Film protestera contre la publication de ces photos. Bacall niera avoir écrit l'article en question. Malgré cela, African Queen obtiendra 4 nominations aux Oscars de 1952 dans les catégories meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario. Seul Humphrey Bogart remportera un Oscar, le seul de son illustre carrière. Bogart reprendra son rôle de Charlie pour une émission diffusée au Lux Radio Theatre le 15 décembre 1952 avec l'actrice Greer Garson dans le rôle de Rose. Malgré son succès, le réalisateur John Huston ne reçut aucune somme d'argent provenant des recettes du film parce que sa société de production Horizon Enterprises fut poursuivie pour fraude fiscale. Afin de se protéger, Huston se dissociera de la compagnie, faisant en sorte que le metteur en scène ne prendra aucun revenu additionnel provenant de la sortie du film. De plus, en octobre 1952, deux agents, Michael Baird et Alvin Manuel, poursuivront la compagnie Horizon Enterprises pour 10 % des bénéfices du film, plus 7 % d'intérêt. Les deux hommes affirmeront alors qu'en 1949, Horizon Enterprises leur avait promis les 10 % en échange de la mise en place d'un accord de coproduction avec Romulus. S'ajoutera à cela une autre poursuite, ainsi qu'une saisie des fonds d'Horizon Enterprises par l'entreprise Shamark de Jack Brother, qui réclamait 120 000 $ de commissions dues pour avoir aidé à financer d'autres films antérieurs à The African Queen. Malgré cela, Spiegel fera fortune car le film sera un énorme succès et continuera de produire des films avec cette compagnie, notamment The Bridge on the River Kwai en 1957 et Laurence of Arabia en 1962. En janvier 1952, une discussion pour la réalisation d'une suite à The African Queen sera entamée, mais celle-ci ne verra jamais le jour. Il faudra attendre en mars 1977 pour voir une suite au film sous la forme d'une série télé. Ce sera le réseau de télévision américain CBS qui diffusera un épisode pilote d'une heure basé sur le film qui sera également intitulé « The African Queen ». Cependant, la série ne sera jamais produite à cause de la mauvaise réception du public au visionnement de l'épisode test. Warren Oates et Mariette Hartley occupaient les deux rôles-titres de ce pilote qui fut mis en scène par le réalisateur Richard C. Sarafian, celui-là même derrière le film culte de 1971, Vanishing Point. Gros fumeur, John Huston recevra un diagnostic d'emphysème en 1978. Au cours de la dernière année de sa vie, il ne pouvait pas respirer plus de 20 minutes sans avoir besoin d'oxygène. Il décédera le 28 août 1987 dans sa résidence de Rhode Island d'une pneumonie à l'âge de 81 ans. Quant au producteur Sam Spiegel, celui-ci remportera plus de 35 Oscars durant son illustre carrière. Il décédera de causes naturelles lors de vacances dans les Caraïbes à l'âge de 84 ans. Après avoir signé un accord à long terme avec Warner Bros., l'acteur Humphrey Bogart verra sa santé décliner, ce dernier développant alors un cancer de l'œsophage en 1955. Après avoir subi une intervention chirurgicale, Bogart tombera dans le coma et décédera le lendemain, 20 jours après son 57e anniversaire, soit le 14 janvier 1957. Finalement, ce sera en mai 2003 qu'une tumeur agressive fut découverte dans le cou de l'actrice Catherine Hepburn. La décision sera alors prise de ne pas intervenir médicalement, la femme étant alors âgée de 96 ans. Elle est décédée d'un arrêt cardiaque le 29 juin 2003 au domicile de la famille Hepburn à Fenwick, au Connecticut. Pour le bateau nommé The African Queen, ce dernier sera racheté par un fan de Bogart. À une certaine époque, le navire appartiendra même à l'acteur Fess Parker, qui interprétera le personnage de Daniel Boone durant la deuxième moitié des années 60 à la télévision, avant qu'il ne soit racheté et restauré en avril 2012 et exposé en tant qu'attraction touristique à Key Largo, en Floride. En 1998, l'American Film Institute a classé The African Queen comme le 17e plus grand film de tous les temps, alors que la compagnie Walt Disney utilisera le long-métrage comme base pour son attraction Jungle Cruise à Disneyland, créée en 1955. Du côté des points forts, eh bien, la chimie entre Bogart et Hepburn ici est tout simplement magique, les deux acteurs nous donnant des performances remarquables tout en tenant avec facilité le film sur leurs épaules. Bien que très vocal, le long-métrage sait garder l'attention de son auditoire avec un Bogart en pleine forme ici et très convaincant dans le rôle de cet homme très simpliste, alors que Catherine Hepburn est des plus naturelles. Le réalisateur nous donne une œuvre passionnante grâce à un habile dosage d'éléments psychologiques, d'aventures dramatiques et surtout d'un humour hors pair. Visuellement, The African Queen est également un tour de force pour son époque, nous présentant des images dignes d'un bon documentaire et mélangeant de façon parfaite images et décors réels avec celles tournées en studio. Mais du côté des points faibles, The African Queen est davantage un drame romantique qu'un film d'action, le film étant très verbatif, ce qui pourrait ennuyer les amateurs de films d'action. De plus, les acteurs dictent leurs dialogues de façon très rapide, ce qui enlève la chance de voir une véritable romance survenir entre les deux personnages. En effet, cette idylle entre les deux caractères survient aussi vite que la diction de leurs répliques, ce qui enlève quelque peu de crédibilité à l'histoire. Quant aux dialogues, eh bien, ceux-ci sont quelque peu enfantins, tout comme certains agissements des deux personnages principaux, mais le spectacle est sauvé par l'excellente interprétation des deux vedettes, bien qu'il soit difficile de croire en cette idylle survenue si rapidement entre les deux personnages du long métrage. Au niveau musical, eh bien, c'est le compositeur polonais Alan Gray qui a réalisé les trames sonores du film The Reluctant Widow, A Matter of Life and Death et Dangerous Voyage. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore du film The African Queen. Côté des cotes artistiques, Mediafilm cote le film L'Africain 4. Moi, j'y vais avec un 3, un film qui a quand même assez bien vieilli en général. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film général. Moi, j'y vais également avec une cote pour tous. Au niveau de The African Queen, eh bien, la cote à l'époque de Mediafilm était 2. Aujourd'hui, il est coté 1, soit chef-d'œuvre. Moi, j'y vais quand même encore avec une cote 2. Je pense qu'il y a certaines longueurs dans le film qui auraient pu être évitées, bien que dans l'ensemble, on n'est vraiment pas loin ici d'un chef-d'œuvre. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également pour un film coté pour tous. Au niveau de la trame sonore, eh bien, vous pouvez trouver le CD de la trame sonore de Georges Delerue, L'Africain, sous l'étiquette Universal France. C'est un CD qui est sorti sur le marché le 12 juin 2012. Alors que du côté de The African Queen, malheureusement, il n'existe aucune trame sonore disponible pour le film. Du côté de L'Africain, le film se trouve en DVD uniquement. Alors que du côté de The African Queen, vous êtes capable d'avoir le film en français et en anglais, en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Donc, des choses que vous pouvez ajouter ici à votre collection. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.